Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipée sauvage, l'émission dont vous commencez à connaître la recette. Une énorme dose de bonne humeur, un zeste de grivoiserie, quatre journalistes en compétition pour le titre de chroniqueur du jour. Et pour m'assister dans cette recette quotidienne, la main ferme de ma fidèle complice, Eva Rock, c'est le sourire de Julien Drieux, la poigne de Maïté. Notamment quand je lui demande de recadrer nos journalistes par rapport à leur performance d'hier. D'ailleurs, qu'est-ce que vous préconisez, Eva?
Eh bien, il va falloir les assommer et les tuer. Vous allez voir.
Alors non, peut-être pas la peine d'aller le faire. Un petit mail suffira peut-être. Ouais, bonjour, Eva Rock.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver.
C'est vrai, vous êtes vraiment ravie?
Ah oui,
vous l'avez joué comme une actrice.
Non,
là.
Je suis vraiment ravie, surtout aujourd'hui.
Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on zappe, oui, ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir. Mais d'abord, si j'ai eu l'idée que d'aucuns jugeront saugrenu de vous comparer à Maïté, ma chère Eva, soleil de ma vie, c'est certainement que notre invité a un rapport avec la gastronomie. C'est un des chefs français les plus célèbres. Il publie un livre sous forme de manifeste pour nous inciter à manger mieux. Il est vrai que les temps changent, que la planète souffre et qu'on ne peut plus consommer comme avant.
Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les fèves? Les pâtés de serre? Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Un porcelet? Quelques cygnes blancs bien poirés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit!
Mangeons moins, mais mangeons mieux. Bonjour Olivier Rollinger.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes un de ces grands cuisiniers triplement étoilés au Michelin qui un jour ont rendu leurs étoiles. Aujourd'hui, vous militez pour une révolution délicieuse, titre du livre que vous publiez chez Fayard. Si vous deviez résumer votre nouveau combat en quelques mots pour présenter l'idée générale à nos auditeurs.
C'est tout simplement de reprendre sa souveraineté alimentaire, en quelque sorte une forme de liberté et de plaisir à bien manger et à faire plaisir à l'autre.
On va évidemment évoquer ce livre qui contient pas moins de 22 conseils, pour certains très pratiques, qu'on va pouvoir mettre à exécution tout de suite. Mais d'abord, avant qu'Eva ne traumatise trop mes journalistes...
Viens là, ma bus, viens là, ma biche, viens là.
Voilà, lâchez ce pilon, Eva. Je vous présente nos deux premiers journalistes en compétition cet après-midi. À ma gauche, un journaliste venu d'ailleurs.
Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il ne reste plus aucun espoir.
Voici Sirou, alias Capitaine Flasque.
Capitaine Flasque.
Non. Bonjour Capitaine Flasque. Alain Sirou, vous dirigez la revue Ciel et Espace. Et aujourd'hui, Alain, vous avez enfin la réponse à la question que je vous pose tout le temps. Y a-t-il, oui ou non, une vie extraterrestre? Là, vous l'avez.
Absolument. En tout cas, l'embryon du commencement de la réponse. Oh, j'ai profité...
Vous allez encore m'enfumer,
Alain. Non, pas du tout. J'ai profité de la présence d'Olivier Rollinger, qui habite Cancale, pour parler de la mer et la façon dont l'eau est arrivée sur la Terre et ce qu'elle transportait nous donne aujourd'hui une indication sur l'origine de la vie.
Carrément. Ah ben, restez avec nous. À ses côtés, Olivier Rollinger, un journaliste qui va certainement vous renverser.
Comme la tarte à tatin.
Oui, alors oui. Oui, je vous précise tout de suite, la fausse modestie, c'est pas son truc. Même en cuisine, la dernière fois qu'il nous invitait chez lui, il avait préparé un gratin de macaroni, il nous avait dit...
Je vous donnerai le vertige.
Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Jean-Philippe, de quoi vous nous parlez aujourd'hui?
On va aller dans la discothèque de 007, parce que ça y est, on sait qui va interpréter la chanson du prochain James Bond.
Ah, j'ai cru, on savait qui allait interpréter le prochain James Bond.
Non, déjà la chanson, c'est pas mal, ça fait partie des codes hein, de ce genre de film.
C'est vrai.
C'est une américaine, elle a 18 ans, c'est la plus jeune interprète de toute l'histoire des James Bond, et c'est Billie Eilish, je vous dirai tout.
Billie Eilish, ce nom me dit quelque chose, parce que je suis terriblement Jones. Merci Jean-Philippe. Un proverbe de chez moi dit, quand on sait pas, on va pas. Mais symétriquement, quand on sait, on peut y aller. L'équipée sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipée sauvage.
C'est donc l'immense chef Olivier Rollinger qui nous accompagne cet après-midi à l'occasion de la sortie de son livre « Pour une révolution délicieuse » chez Fayard. Plus qu'un livre d'ailleurs, un manifeste qui nous invite à changer notre manière de consommer pour sauver la santé de la planète, mais aussi d'abord notre santé à nous, Olivier Rollinger. C'est ça qui est en jeu en fait aussi.
Les trois grands enjeux de demain, c'est quel air allons-nous avoir pour respirer, quelle eau allons-nous avoir pour nous hydrater, et enfin, quelle alimentation. Et pour une alimentation, il faut un garde-manger. Et le garde-manger, il se trouve que c'est la nature et la planète. Et cette planète, elle a été terriblement abîmée. Et en tant que cuisinier, c'est-à-dire que... Mais un cuisinier, je dis bien pas chef, mais cuisinier, parce que d'ailleurs, j'aime pas beaucoup le terme de chef. Mais le cuisinier, c'est nourrir. Nourrir l'autre. C'est prolonger donc la vie de l'autre. Et là, on s'aperçoit que toute cette alimentation de l'agroalimentaire nous a amené à des dérives qui a entraîné la première, qui est la pandémie d'obésité, Et derrière cette pandémie d'obésité, bien évidemment, il y a toutes les maladies collatérales. Et donc, et on doit reprendre. Mais avant tout, c'est surtout le plaisir qu'il faut reprendre.
Oui,
avant
même, bien la santé.
Mais je crois que les deux sont absolument liés. C'est absolument. Et donc, comment peut-on imaginer se faire plaisir en mangeant si on sait qu'on s'empoisonne à petit feu?
Donc il faut reprendre le contrôle de son alimentation. 22 conseils dans votre livre. Alors Eva, ça vous fait quoi de passer l'après-midi avec un cuisinier réputé aussi créatif qu'Olivier Rollinger? Ça donne envie de reprendre des bonnes résolutions, non?
Demain, je fais un crumble framboise.
Bah, c'est un début.
Ouais, mais c'est pas la saison.
C'est pas la saison,
c'est
exact.
Vrai, c'est vrai.
Eh oui, Eva,
mais
scandale.
C'est pas quand même.
Non, c'est nul, c'est pas la saison. Ah bah, vraiment, vous êtes irrécupérable.
Pop,
hein. À suivre, c'est évidemment leur vie privée, les amis. Il ne me revient pas de la dévoiler à l'antenne. Néanmoins, selon nos informations, à l'issue de la petite sauterie organisée hier soir pour fêter les audiences, Eva Roque et Jean-Philippe Ballas auraient terminé la nuit ensemble dans un Airbnb de la Porte de Versailles. Une belle histoire qu'évoquait avec romantisme Jean-Philippe ce matin à la machine à café.
En tout cas, la bécane, elle n'avait pas tourné depuis une trentaine d'années.
Oui, oui, oui. Bon, Jean-Philippe tentera de se reprendre avec une bonne chronique. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Quatre journalistes qui s'affrontent au service de votre savoir et de votre bonne humeur. Vous écoutez l'équipe est sauvage. Deux heures d'un joyeux pugilat journalistique sous l'œil d'un invité d'honneur. Aujourd'hui, le chef Olivier Rollinger qui nous invite dans un livre à une révolution délicieuse. Eva, vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez compris?
Mais j'adore l'aubergine. Peut-être qu'il faut que je me mette à fumer.
On l'a vachement rien compris. Elle a rien compris. Olivier, on va revenir évidemment sur ce manifeste. Mais voici venu le moment d'entrer dans le vif de la compétition avec notre premier concurrent du jour. Grand journaliste pour les uns, faussaire sentimentaliste pour les autres. Jean-Philippe Ballas ne mise jamais que sur la qualité de ses infos pour l'emporter dans cette émission. Son truc, faire chialer dans les chaumières.
Donc je dis aux auditeurs, pensez à ce que vous laisserez à vos enfants, même si on sait tous que nos plus bons souvenirs, ils sont dans notre cœur.
Nous reverrons. Oui, parfois, la ficelle est un peu grosse, mais comme disait Chirac, plus c'est gros, plus ça passe. Jean-Philippe Ballas, faites-nous chialer.
Non, je vais vous faire danser peut-être, en tout cas swinguer. Allez, on se met dans l'ambiance. Vous avez reconnu, c'est que la grande nouvelle depuis quelques heures, on connaît le nom de l'interprète de la chanson du prochain James Bond. Elle s'appelle Billie Eilish.
Ah, c'est une fille.
Et là...
J'avais cru que c'était un mec, Billie.
Bah justement, je sens que le monde se partage en deux, soudain, ouais, chez les
auditeurs. Les jeunes et les vieux, c'est ça?
Oui, d'un côté, ceux qui connaissent Billie Eilish, et ceux qui ne la connaissent pas, c'est le retour du hockey boomer. On en a parlé souvent quand on est un peu largué dans cette émission. Alors, pour tout le monde, pas de panique, une petite remise à niveau, un petit extrait de ce qu'est Billie Eilish. So you're a tough guy, like you're really rough
guy, just can't get enough guy. Oh. Et oui, on l'a pas souvent dans notre émission, c'est en fait cette chanson. Maintenant, je le révise. Mais oui, bien sûr, Billie Eilish.
Alors, personnellement, moi, je la connaissais, mais j'ai pas grand mérite.
C'est-à-dire, vous la connaissez aussi bien que Mireille Mathieu ou pas?
Je la connais.
Parce que Jean-Philippe est un grand ami de Mireille Mathieu. Il a fait un beau reportage sur elle. Bon, bref, allez-y, Jean-Philippe.
Billie Eilish, je la connais surtout grâce à ma progéniture préadolescente, qui l'écoute beaucoup à la maison. Alors, elle est américaine.
On dirait un monstre, c'est progéniture préadolescente.
Elle a 18 ans et elle a écrit la chanson avec son frère et elle devient du coup la plus jeune interprète de l'histoire des bandes originales de James Bond. Alors ce sont des artistes qui sont toujours choisis avec grand soin par la production parce qu'il faut être dans la hype, comme on dit, d'où parfois ce fossé des générations. Je me souviens d'ailleurs de mon vieux père à l'époque qui se demandait qui pouvait bien être ce Duran Duran. Oui, ça c'était Duran Duran, le groupe anglais, View to a Kill, dangereusement vôtre, traduit en français. J'adore les traductions de
James Bond. Oui, les traductions en français, il y en a certaines qui sont un peu foirées, on peut le dire aujourd'hui. Oui.
Ça remonte, hein, c'était en 1985, à l'époque c'était Roger Moore qui incarnait James Bond. Et vous noterez dans la production que parfois les chansons de James Bond, elles prennent un petit coup d'œil parce que forcément, quand vous êtes hyper à la mode à une époque,
elles sont marquées par cette époque,
un jour,
les arrangements.
Vous n'êtes plus à la mode. Alors, il y a quand même un titre intemporel, c'est la référence en termes de bande originale de 007, c'est quand même ça. Cold finger.
Il faut dire aussi que le vintage, la mode du vintage revient, donc ça c'est patiné, ça nous plaît forcément aujourd'hui.
Et puis cette chanson, on va le voir, c'est un peu la matrice, c'est Goldfinger en 1964, c'est Shirley Bassey, une musique de John Barry, le compositeur historique des James Bond. Alors l'histoire dit que Shirley Bassey, elle est rentrée dans le studio avec son manteau, elle a enlevé son manteau, elle a ouvert le micro. Elle a embrayé direct, l'orchestre était en place, toujours très impressionnante comme artiste. Et puis surtout, vous avez entendu, il y a les montées et les descentes d'accords, il y a les cuivres, toujours très importants dans les James Bond. Ça fait un peu partie du cahier des charges de la patte de
sur la musique. Chanson, sur le thème de chaque nouveau James Bond, il y a toujours des cuivres et tout ça, on doit rester.
Très souvent écouter Tina Turner, ah bah ça oui. C'était oui. GoldenEye 95 avec Pierce Brosnan.
Ça c'est vraiment dans le mood quoi. Enfin,
pour moi c'est parce que c'était ma jeunesse aussi peut-être, ouais. Mais pour moi c'est un des grands thèmes de James Bond. Ouais.
Est-ce que vous vous souvenez de qui avait composé cette chanson à l'époque?
Je n'ai aucune idée, Jean-Philippe.
Eh ben c'était U2, c'était Bono. C'est Bono, le chanteur de U2, et The Edge, le guitariste, qui s'étaient mis ensemble. Alors il y avait évidemment d'immenses clins d'œil à la version de Goldfinger de 64 de Shirley Bassey. Alors dans la liste, j'ai regardé, il y avait aussi Madonna. Moi, j'ai trouvé ça un peu bof. Il y avait Alicia Keys. C'est toujours codé. Hein. Vous savez, il y a le générique au début, puis il y a la chanson, ça installe toute l'intrigue. Mais ma chanson préférée de tous les James Bond à moi, c'est celle-ci. Live and let die.
Ah, c'est un James Bond.
Oui, les Batman. Vivre ou laisser mourir.
Live and
vivre
and die.
Et laisser mourir.
Mon polo, Paul McCartney.
Votre
Wings.
Polo.
C'était en
ça
1960.
Doit être sympa les soirées avec vous, Paul McCartney et Mireille Mathieu.
J'aimerais tellement
des dîners sympas. Quoi.
J'aimerais tellement. Mourir peut attendre. Ça, c'est le titre du prochain James Bond des éditions. J'adore les titres de ces
vous
films.
Vous êtes sûr qu'ils ont le temps de le changer encore
ouais. Ça sortira au mois d'avril et ce sera donc avec la voix de Billie Eilish.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Ballas. Alain Sirou, un dernier mot.
Trilobite.
Merci. Europe 1. À suivre, les journalistes d'Europe 1 n'avaient plus le moral. Ils avaient le cœur sec, l'œil triste, le poil tombant. Et comme le soulignait Anne Le Gall,
ils ne se reproduisaient plus depuis 1993.
Avec l'équipée sauvage, tout ça appartient au passé. Désormais, chaque après-midi, nos journalistes s'ébrouent gaiement dans le champ fertile du savoir. Un seul sera élu chroniqueur du jour. Peut-être Alain Sirou, notre expert scientifique, qui dans un instant vous explique pourquoi la vie sur Terre pourrait bien être d'origine extraterrestre. Explication juste après Missing, Everything But The Girl sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, en compagnie d'un invité d'honneur. Aujourd'hui, le cuisinier Olivier Rollinger, chef militant qui nous appelle à une révolution délicieuse. Un livre que n'aurait pas beaucoup aimé Lino Ventura, qui n'était pas vraiment un pionnier du mouvement slow food.
Vous allez me mettre des paupiettes à l'ouverture et un plat de côte. Non, non, attendez. Mettez-moi d'abord un civet au lieu des paupiettes. Hein? Et puis mon plat de côte après, quoi. Et puis, glissez-moi une petite paupiette avec, quoi.
Alors, Olivier Rollinger.
Je ne suis pas tellement persuadé. Lino Ventura, et finalement, il mange de la qualité, justement.
Bah, il mange de la qualité, mais il mange beaucoup.
Oui, mais on peut très bien... Non, mais globalement... évidemment, l'apport en calories est sûrement trop important, mais il n'est pas tellement là le problème. Le problème, c'est ce que nous ingérons surtout.
Alors, le problème, il est que 85% de l'alimentation en France est achetée en grande surface. 70% des produits alimentaires appartiennent à moins de 20 marques. Oui. Et donc, seule une petite poignée de personnes, ceux qui gèrent les centrales d'achat, décident en fait, pour tout le monde, de ce qu'on va bouffer.
Oui, mais c'est bien normal. On a une part de responsabilité. Pourquoi ? Parce que... Après les années 68-70, on a délaissé totalement l'alimentation. On a laissé cette tâche qu'on a considérée comme subalterne, c'était pas à faire, et vraiment d'être dans le coup, d'être moderne. C'était même un marqueur social, c'est de pousser un caddie le samedi après-midi dans une allée marchande et le remplir de plats tout préparés, de marque ou pas de marque, et remplir son frigo avec ces choses-là pour nourrir toute la petite famille.
Mais...
Un piège.
Mais il y a aussi une notion de prix derrière aussi, Olivier. Non, pas du... Alors ça, vous dites non dans le livre.
Alors je vous dis non, mais je l'explique en deux mots.
Mais attendez, moi j'ai essayé de m'inscrire dans une AMAP. Ouais. C'est cher quand même, c'est plus cher que d'aller dans un super... Évidemment, c'est meilleur, non. Et alors, cette saison.
Alors ça, j'en suis pas du tout convaincu que ce soit plus cher que d'aller dans un supermarché. Ce qui coûte le plus cher, c'est d'acheter des plats préparés. Ce qui coûte le moins cher, c'est de cuisiner.
Ça, c'est sûr.
D'acheter des lasagnes, d'acheter des nuggets, d'acheter tous ces trucs-là qui n'ont pas de sens, d'acheter une soupe. D'ailleurs, on achète tellement une soupe aujourd'hui, c'est qu'il y a une marque, alors, je ne vais pas la citer, mais qui dit, qui, pourtant bien connue pour faire des soupes, et cette soupe, il nous dit, vous nous avez fait grandir, maintenant, dans nos soupes, nous mettons que des légumes.
Vous mettiez...
Il y a un truc fou. Eh bien, non, mais... Et alors, on va dire, ah oui, mais cuisiner, c'est du temps. Alors, oui, si c'est vous ce permettez, que vous effectivement, il y a des personnes, des hommes, souvent des femmes, des jeunes mamans en particulier, qui ont débordés. Un enfant ou deux enfants, qui n'ont pas des gros revenus et qui habitent, qui ont un lieu de travail loin de leur habitation.
Alors, qu'est-ce que vous leur dites
ces personnes-là, ça, je ne suis pas un homme politique, je ne sais pas comment elles font pour s'alimenter, je ne sais pas comment elles font pour vivre. Mais si on met de côté cette catégorie de personnes qui sont aujourd'hui les héros, les héroïnes de notre époque, qu'est-ce qui nous reste ? La grande majorité des Françaises et des Français ont évidemment le temps de cuisiner. Et de cuisiner, c'est surtout pas enquiquinant, la corvée, c'est au contraire un plaisir. Et c'est du plaisir pour soi-même, pour ceux que l'on aime, également pour la planète et également pour son portefeuille. Donc allons-y.
En avant vers le plaisir avec Olivier Rollinger avec nous cet après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, et si la vie sur Terre était d'origine extraterrestre ? Des études récentes démontrent que c'est une comète qui est à l'origine de l'eau de nos océans. Imaginez le succès que vous allez avoir la prochaine fois que vous contemplerez les étoiles avec une fille et que vous lui raconterez ça. Elle risque bien de s'exclamer comme Eva la fois où je lui avais montré la grande ours.
Oh, oh, elle est magnifique !
À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage spéciale Mieux manger continue avec le chef Olivier Rollinger qui publie Pour une révolution délicieuse, plus qu'un livre, un manifeste dont le précurseur me semble être Jean-Pierre Mariel qui déjà dans Calmos en 1976 déclarait
« Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication. »
Est-ce que vous partagez cette philosophie, Olivier Rollinger ?
Quelle belle philosophie, déjà, extrêmement, mais voilà, il est tout compris avant l'heure. Et il est évident qu'aujourd'hui, on mange quand même un cocktail de résidus de pesticides. Vous avez vu là, la dernière étude, là, ouais. Les achats de pesticides en France ont augmenté de 25%. On croit rêver, alors qu'on nous parle qu'on va peut-être diminuer les glyphosates. Alors, est-ce qu'on le met à 5 mètres ? Est-ce qu'on le met à 150 mètres ? On va surtout leur dire qu'on n'en veut plus dans notre alimentation. Et ce n'est pas du tout contre le monde agricole, bien au contraire. Il nous faut, nous voulons des paysans. Mais on ne veut pas d'une alimentation qui commence par empoisonner ses producteurs, qui ne les asphyxie pas économiquement et socialement, et enfin, avoir simplement une nourriture saine.
On continue de parler des 22 conseils que vous donnez dans ce livre, mais c'est le moment d'écouter Olivier Rollinger, notre deuxième concurrent du jour. Une expertise hors norme, un style inimitable, surtout sur le plan optique. D'ailleurs, à la question que vous vous posez certainement, où diable Alain Sirou a-t-il dégoté des lunettes pareilles ?
La réponse se trouve dans une lointaine galaxie, à quelques 40 000 années-lumière de notre système solaire.
Et justement Alain, d'après deux nouvelles études, c'est peut-être à plusieurs milliers d'années-lumière de notre système solaire qu'est née la vie, ou en tout cas, les prémices de la vie.
Oui, absolument. Deux choses. La différence entre astronomie et gastronomie, c'est qu'un G. Et ce G, Olivier, ça peut être le gustatif ou la gravité.
Le G, c'est évidemment plein de choses. Mais...
c'est plein de choses.
Et
la seconde chose, c'est qu'on a un problème en astronomie inverse de celui des cuisiniers. C'est que notre plat est déjà prêt. C'est-à-dire que la Terre, on la voit, elle est, entre guillemets, finie. C'est-à-dire que il y a de l'eau, il y a de la vie. Et toute notre problématique à nous, c'est de savoir comment on a fait. Combien il a fallu de farine, à quelle température, qu'est-ce qu'il a fallu ajouter comme ingrédient, etc.
Il a fallu de la farine pour faire la
terre ? Et ben, c'est-à-dire les ingrédients, d'où ça vient, c'est une image.
Ah, une image, d'accord, merci Jean-Philippe.
Et vous qui habitez à Cancale, près de la mer, alors je vais vous donner deux informations, deux découvertes récentes. La première, c'est l'origine de l'eau. On ne savait pas d'où venait l'eau des océans. Alors c'est bizarre parce qu'on avait deux hypothèses. La première hypothèse, c'était l'idée que lorsque la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, les composés, en quelque sorte les poussières hydratées, auraient pu dégazer de l'eau en quantité suffisante pour que ça fasse de la vapeur, que ça retombe et que ça forme les océans. Mais les planétologues n'y croient pas, ça ne marche pas. Et la deuxième hypothèse, c'est que ça pouvait venir des comètes.
Il faut beaucoup de comètes,
c'est
quand
quoi
même.
Les comètes, alors il faut beaucoup de comètes, il faut des millions de comètes.
Des millions.
On sait aujourd'hui qu'il en existe encore des milliards. Et qu'il en est tombé des centaines de millions sur la Terre dans les centaines de millions d'années après sa création, après sa formation. Donc,
il y avait de l'eau dans les comètes, je comprends.
Il y a de l'eau, à peu près 50% de glace dans les comètes, dont de la glace d'eau.
Des glaçons.
Et de récentes études ont
plein
montré
plein de glaçons
que,
qui sont arrivés comme ça, pour un apéro géant. Formidable. C'est la création de la Terre, est en fait un gigantesque apéro.
Et de récentes études ont montré que la composition de l'eau des comètes était en partie équivalente à la composition de l'eau des océans. Donc on a une filiation. Nous savons aujourd'hui que l'essentiel de l'eau des océans vient de l'espace et donc des comètes.
Attends, c'est une hypothèse ou c'est une certitude ?
C'est une certitude puisque grâce à des avions qui ont pu, dans la haute atmosphère, regarder les dégazages des comètes lorsqu'elles s'approchent du Soleil, nous avons une indication très précise, ce qu'on appelle une mesure moléculaire en quelque sorte, hein, de la nature et de la quantité exacte hydrogène-oxygène de l'eau.
Bon. On a le droit de poser une question ?
Oui, bien sûr, Olivier.
Comment se fait-il que la Terre soit la seule planète sur lesquelles il y a de l'eau, justement ? Parce que les autres planètes reçoivent aussi des comètes,
oui,
me semble-t-il.
Absolument. Alors, parce que celles qui sont plus proches sont trop chaudes. Donc, vous regardez Vénus, c'est 450 degrés, c'est
plus
trop chaud.
Plus proche du Soleil, vous voulez dire ?
Plus proche du Soleil. Et les autres sont plus lointaines. Donc, Mars, il fait moins 50, moins 80 degrés. Et après, vous
le
voyez
glaçon,
vraiment...
Le glaçon reste glaçon.
Ça reste de la glace. Et en fait,
elle ne sont pas restées. C'est le hasard de la distance par rapport au Soleil.
C'est la distance. Et deuxième découverte, elle est récente, elle date d'aujourd'hui. C'est une découverte extraordinaire parce qu'elle vient avec des radiotélescopes du Chili et avec une sonde spatiale qu'on connaît bien qui s'appelle Rosetta, qui est passée à côté de la comète Chury. Eh bien, les astronomes ont suivi un ingrédient qui s'appelle, un élément chimique qui s'appelle le phosphore. Mmh. Et le phosphore, bah, c'est une des briques du vivant. Vous le trouvez dans notre ADN, dans nos membranes cellulaires. C'est essentiel à la vie. Eh bien, on a vu autour d'une autre étoile que le Soleil, comment elle se formait. Et on a vu qu'elle s'échappait en quelque sorte de la... elle allait en banlieue de cette étoile. Elle ensemençait, entre guillemets, les comètes autour. Et ces comètes, bah, c'est la même chose que dans notre système solaire. C'est-à-dire que les comètes qui sont tombées sur la Terre ont apporté un de ces éléments, donc le phosphore, on en est sûr aujourd'hui, qui est un ingrédient essentiel à la vie. Alors vous voyez, on a la température, on a l'eau, on a du phosphore, un des ingrédients. Bon, on a le gâteau final. Vous voyez qu'on progresse. Excusez-moi, je retourne au laboratoire.
Mais non, mais je comprends très bien. C'est une très belle recette, mais c'est peut-être plus un soufflet. Pourquoi un soufflet ? Parce que
on
reconnaît aujourd'hui la très grande fragilité qu'est la vie, justement. Mmh. Et justement, et on s'aperçoit que la vie n'est pas une règle, mais une exception. Et c'est ça aussi la grande information. En tous les cas, la jeunesse du monde a pris conscience de cette fragilité.
Bien, écoutez, magnifique chronique d'Alain Siroux. Je retiens que le monde s'est créé comme un apéro avec des glaçons. Ensuite, on a mis des briques, ça ressemble à une réunion de fin de chantier. Et ça s'est terminé par un soufflet. Bon, vous pouvez nous l'avouer, Alain, vos deux études, elles étaient bidons.
Voilà.
Oh, Alain, pensez aux anguilles.
Europe 1.
Vous voulez reprendre votre alimentation et partant votre santé en main tout en pensant à l'environnement, ça tombe bien. Le chef Olivier Rollinger est notre invité cet après-midi. Il publie un manifeste pour une révolution délicieuse. Et Eva, mauvaise nouvelle, il va nous falloir lever le pied sur les plats trop riches en gras.
Mais moi j'en veux du dessert.
Ah, c'est comme ça Eva, je m'en veux en bonne santé. Surtout pour le quiz qui va vous opposer à notre invité. Un quiz que je n'aurais quand même pas eu la perfidie, l'ignominie de concevoir aujourd'hui sur le thème de la nourriture, d'après vous, Ballas. Je suis vraiment un ignoble personnage, à tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Étanchez votre soif de savoir tout en musclant vos zygomatiques, voilà l'objectif de l'équipée sauvage. Chaque après-midi, la grande battle des journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G, et pas que, puisqu'aujourd'hui, avec notre invité, le cuisinier Olivier Rollinger, on vous apprend à mieux manger, à ne plus vous exclamer bêtement devant les rayonnages de poissons panés Picard.
C'est un beau poissonnet !
Ni devant le rayon des glaces et sorbets.
Oh, du dessert !
Apprenons à nous maîtriser et à mieux consommer. C'est un souci que vous avez en vous depuis toujours, Olivier Rollinger, ou bien au contraire, ça a été une prise de conscience tardive ?
Une dizaine d'années. Vous savez, les cuisiniers de renom, comme ça, ce qu'on appelle les grands chefs, on est resté trop longtemps, beaucoup trop longtemps, dans notre tour d'ivoire. On avait évidemment nos équipes, nos fournisseurs, nos clients, nos fournisseurs, nos petits producteurs, on voulait surtout les garder, on ne les partageait même pas entre nous, hein, parce qu'on ne voulait pas que le copain ait le même produit. Et on avait deux grands frissons par an. On avait le guide jaune, le goémio qui sortait en fin d'année, et le guide rouge qui sortait en début d'année. C'était les deux grands frissons. Et on ne s'est pas s'occuper du tout de l'alimentation de tous les jours des gens qui vivaient autour, mais même nos familles dans nos communautés. Et c'est une grave erreur, parce qu'on a laissé la malbouffe s'installer. Et je pense qu'aujourd'hui, les cuisiniers, en tous les cas, moi je suis vice-président à l'international des cuisiniers relais châteaux dans le monde.
Vous avez une responsabilité.
Et on a cette responsabilité. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est sûrement pas l'agro-business qui va le faire, c'est sûrement pas les banques, c'est sûrement pas les grandes surfaces. Donc il nous appartient d'être éthique et de montrer très simplement comment le plaisir de bien manger, c'est Et puis, cette France, qui est le pays des droits de l'homme, devrait être le pays du droit à bien manger et pas un privilège réservé à quelques-uns.
livre s'ouvre sur une anecdote qui peut-être est le déclic, la finale des Bocuse d'Or. Vous racontez une anecdote qui est édifiante.
Oui, c'est-à-dire que bon, c'est quand même un concours absolument de renommée internationale qui porte le nom quand même de notre grand capitaine qui était Paul Bocuse. Et aujourd'hui, on voit des marques, enfin l'équivalent de la grande surface pour la restauration, qui vient s'insérer dans ce monde et vient totalement financer et qui ne représente pas la qualité des petits producteurs en France, des pêcheurs, des apiculteurs, des crémiers, des éleveurs, des maraîchers. Ce n'est pas du tout ça, la cuisine française. Ça ne se fait pas en achetant ces produits
le font
dans ces
maisons. Vos collègues, vos anciens collègues, sans même trop y réfléchir, vous, le jour où vous décidez de ne pas porter cette marque, vous voulez l'enlever pour ne pas cautionner ça.
Vous essayez de la cacher.
Vous avez envie de dire à vos collègues, mais demandez-leur au moins de l'argent, 10 000, 50 000 euros que vous donnerez des associations contre la faim et les sans-abri. Cessez d'être naïf et de vous faire avoir.
Mais complètement. Là, on nous utilise comme des gogos.
C'est ça. Alors, elle, Olivier Rollinger, la dernière fois qu'elle a essayé de se mettre en cuisine pour nous sortir un petit plat, le résultat a été, comment dire ?
C'est pas gluant, c'est autre chose, quoi. Et c'était extraordinaire.
Oui, alors on entend dire que depuis, pour les repas entre collègues, on privilégie le restaurant.
Vous êtes vraiment méchant, parce qu'à chaque fois que je vous fais des gâteaux, ils sont très bons.
C'est vrai.
Alors, je réfléchis. Oui et non. Pour me venger, j'ai inventé le concept sadique du quiz opposant Eva à l'invité dans un domaine qui clairement n'avantage pas Eva. Olivier Rollinger, aujourd'hui, Eva Rock va vous défier sur votre propre terrain, celui de la nourriture. C'est un vrai faux. C'est parti. Eva Rock, attention, il existe un site de rencontre pour celles et ceux qui ont aussi comme passion la cuisine et le bien manger, c'est le site Marmite Love. Vrai ou faux ?
Bah alors là, malheureusement, je pense que je vais avoir la bonne réponse parce que je pense que c'est vrai. Enfin, je sais que ça existe.
Vous êtes inscrite ?
Non, je suis pas inscrite.
C'est vous, Sexy Soca 69 ?
Non, c'est pas moi, Sexy Soca. Mais je sais que ça existe, les sites de rencontre pour les gens qui aiment faire la nourriture.
Bonne réponse. Sur le site, il est écrit pour les gourmets et les cœurs d'artichaut en quête de coup de food.
Et
par exemple, les écoles de cuisine, ce sont des lieux de rencontre.
C'est chaud un peu dans les.
Ah, mais c'est chaud, mais c'est amoureux, c'est sensible. Et puis, est-ce que la cuisine n'est pas déjà. C'est un acte d'amour de cuisiner.
C'est pas faux.
Inscrivez-moi tout de suite là.
Mais je vous inscris. Ben, ça vous va, Sexy Soccer ?
Oui, c'est très bien.
Olivier Rollinger, si vous prenez un épi de maïs dans la main et que vous comptez les rangées verticales du maïs, il y en a toujours un nombre pair. Vrai ou faux ?
Je pense que c'est faux.
Vous pensez que c'est faux, Olivier
Rollinger ?
Vous mettez vos trois étoiles en jeu ?
Totalement.
Eh bien, je vous enlève une étoile. C'est vrai ! Il y a entre 750 à 1000 grains. Quant aux rangées, il peut y en avoir de 8 à 24, mais c'est toujours un nombre pair. Fascinante nature.
C'est ça que je trouve un petit peu désolant.
La nature parfois est symétrique. Eva Rock, en Swahili, langue parlée en Ouganda, au Burundi, au Rwanda, dans le sud de la Somalie, au Kenya, je crois aussi, pour dire noix de coco, on dit coconas. Vrai ou faux ?
Mais c'est ça, mais insultez-moi aussi. Non.
Coconas.
Non, c'est faux. Hein.
C'est faux ?
Oui, c'est faux.
Vous êtes sûr de vous ?
Oui, je suis sûr de moi.
Je vous donne une dernière chance, vous êtes sûr de vous ?
Oui, je suis sûr de moi.
Faux. Mais coconas, c'était pas trop mal puisqu'on dit nazi.
Non.
Exactement, ce qui n'est guère mieux.
On dit nazi pour une autre coco ?
Exactement.
Quelle horreur.
J'ai pris un nazi sur la tête. Olivier Rollinger, vous connaissez Yesterday des Beatles ?
Attention,
c'est la question qui va vous départager. Eh bien, à l'origine, le groupe avait choisi pour titre Scrambled Eggs, ce qui signifie œufs brouillés, à la place de Yesterday. Vrai ou faux ?
Moi, je pense. Aimant beaucoup les Beatles, je suis pas certain qu'ils avaient un palais très affiné, mais ça leur va bien, et puis c'est tellement anglais.
Scrambled Eggs, c'est vrai. McCartney, votre ami Polo, l'ami de Jean-Philippe Hélas, a composé d'abord la musique. Mais d'ailleurs, c'est peut-être vous, Jean-Philippe, qui avez de Scrambled. Il a d'abord composé la musique, Paul McCartney, avec Lennon. Ils ont mis des mois avant de trouver le bon texte. Le leader des Beatles a même déclaré avoir été un peu triste d'avoir trouvé Yesterday parce qu'il avait une tendresse pour Scrambled Eggs.
Ouais.
Oui, Jean-Philippe, vous vouliez
dire
quelque chose.
Scramble legs, bébé, I love your legs. Bébé, j'adore tes jambes.
Ça sonnait vraiment bien. Écoutez, pour la blague, Paul McCartney l'a chanté chez Jimmy Fallon. Scramble
legs. Génial.
Oh my baby, how I love your legs.
Oui, c'est ça.
Not as much as I love scramble eggs.
Et je crois que blague à part, c'est le seul et unique enregistrement de la version originelle de Yesterday
chez Jimmy Fallon.
Ouais,
est-ce que ça aurait connu le même succès? On ne sait pas. Qui remporte ce quiz? C'est Olivier Rollinger qui remporte le coup de oui parce qu'on a doublé ses points. Qui aurait pu penser qu'un jour un chef triplement étoilé triompherait des Varrocks sur un quiz consacré à la gastronomie? Comme ça, ça permet de ne pas changer mon texte. Décidément, le monde est fou.
Europe 1.
À suivre en 1979. Eh bien, écoutez-moi quand je parle.
Je vous écoute.
À suivre en 1979, certainement pour protester contre le coup des péages sur l'autoroute, ACDC chantait. Plus tard, l'Espagne a décidé d'en finir avec les péages. Finito el peageros, comme on dit à Alicante. Pour fêter ça, ACDC pourrait chanter. Ou pas, c'est vraiment moche. On va plutôt écouter Angèle, oui ou non, sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, ou plutôt, comme on dit au sud des Pyrénées, l'équipado sauvageau. Car oui, nous prenons à présent la direction de l'Espagne où il s'en passe de belle. On retrouve vite notre correspondant Henri de Laguérie puisque certaines autoroutes espagnoles ont décidé de supprimer les péages. Suprimado el peajo. Si habla espagnol muy curamante, Henri.
Mais tu crois que tu m'impressionnes? Moi je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro.
Ah oui, mais vous, vous êtes le correspondant d'Europe 1 Barcelone, c'est normal. Bref, bonjour Henri.
Bonjour Mathieu.
Alors comme ça, on ne paye plus les péages chez vous?
Oui, alors, écoutez, seulement une fois qu'on a dépassé Barcelone, écoutez, ça se passe au sud de la Catalogne, on est le 31 décembre dernier, et on fête le réveillon devant un péage. Voilà,
ça me rappelle l'émission des cadenas de vendredi, j'ai l'impression.
Voilà, les gens vêtus de leur gilet jaune ne fêtent pas tant la nouvelle année que la nationalisation de l'autoroute. Il y en a certains qui hurlent liberté ou gratuité. Et 374 km de route le long de la Méditerranée entre Tarragone et Alicante, désormais gratuite. Alors avant, ça coûtait près de 46 euros.
Ah oui,
et même chose pour un autre tronçon en Andalousie. Et d'ici l'été 2021, l'autoroute ne sera plus payante dès la frontière au Pertus.
Mais comment font-ils?
Alors, les concessions accordées à des entreprises privées il y a près de 50 ans arrivent à leur terme. La gauche au pouvoir a décidé de ne pas les renouveler. Aujourd'hui, résultat, 18% seulement des autoroutes sont payantes en Espagne contre 70% en France. Mais cette fin des péages, bien sûr, provoque un débat ici, car l'entretien du réseau dépend désormais de l'État et donc, évidemment, de l'argent du contribuable. Certains veulent une vignette ou une taxe de circulation. En gros, ils aimeraient que seuls ceux qui roulent aient à financer les routes. Mais pour le secrétaire d'État au transport, Julián López, d'autres solutions sont possibles.
On n'est pas obligé d'instaurer l'eurovignette ou un tarif pour l'usager. On peut instaurer une taxe environnementale ou faire, comme dans d'autres pays, une taxe sur les carburants. En tout cas, l'idée du gouvernement est simple, concession terminée, barrière de péage levée.
Voilà, alors Mathieu, profitez vite des péages gratuits en Espagne. En fait, ça ne va pas forcément durer très longtemps, on ne sait pas très bien. Et puis, on pourrait peut-être avertir le gouvernement espagnol, hein, parce que la taxe sur les carburants, taxe carbone, voilà, c'est un débat qui commence ici. Bah, ça peut provoquer la colère de tout un pays, on en sait quelque chose en France.
Mais ça tombe bien avec Eva, vous voulez se faire un petit week-end à Barcelone?
Mais oui, ça va nous coûter moins cher.
On va peut-être prendre le Kangoo et descendre tout droit, et on aura une portion d'autoroute qui sera gratuite.
Oui,
ça sera déjà
ça. Par contre, la portion française, elle va être un peu chère.
Côté français, ça va douiller. Mais on a tellement envie de vous voir, Henri. Ça fait tellement longtemps.
Eh bien, avec plaisir. Je vous attends.
Merci beaucoup, Henri de Laguérie, correspondant en Espagne d'Europe 1.
Europe 1.
Sauver la biodiversité et du même coup notre santé, ça passe par un changement dans notre alimentation. On continue d'en parler dans la deuxième heure de l'équipée sauvage avec notre invité, le chef Olivier Rollinger. Un chef avec qui j'ai beaucoup en commun, notamment la rigueur dans le travail. Oui, en effet, je gère cette émission comme il a toujours géré ses restaurants, avec une main de maître, un souci du détail et une concentration de chaque instant. Sauf quand vous m'entendez dire « Ah !» comme dans la célèbre réplique de Depardieu. « Ah, on est bien à la fraîche, décontracté, etc. » Sauf que chez moi, ça signifie autre chose. David Fuenquinos, qui a vu naître cette émission, est notre invité jusqu'à 18h. Ah ! Oui, quand je dis « Ah », c'est que je suis pas sur la bonne page. On est bien. Eh ben, la suite de l'émission.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
C'est la mi-temps pour les journalistes de l'équipe est sauvage, alors qu'Olivier Rollinger, notre invité, se fout copieusement de ma gueule.
Vous faites tacler depuis le début de l'émission,
mais
quand
j'aime
même.
Ça, vous savez. J'ai un petit côté maso, j'adore ça. Nos champions vont reprendre leur souffle, de nouveaux concurrents vont nous rejoindre. On va parler notamment du vrai coup de la grève pour la SNCF et d'une nouvelle méthode assez contre-intuitive pour draguer. Il faudrait, d'après une chercheuse, se prendre un maximum de râteaux. Formidable nouvelle pour moi qui m'en suis pris un pas plus tard que lundi avec Sandrine Bonner, et ce d'entrée de jeu. Pam, la sanction. Mais déjà, je tenais à vous remercier d'avoir accepté notre invitation, car vous êtes assez rare finalement dans les médias, notamment en radio. La promo aujourd'hui, bon, ça fait clairement partie du métier de comédien, mais c'est pas votre partie préférée du métier.
Ça dépend sur qui on tombe.
Bon, ok. Ah, en même temps, ce jour-là, on le rappelle, Sandrine ne pouvait pas être au four et au moulin puisqu'il y avait Anissé Mbida qui la draguait copieusement. Anissé qui depuis d'ailleurs fait chambre à part avec sa femme. Comme quoi, il y a une justice, hein, Eva.
Mais ta femme a vraiment dormi sur le canapé ?
Oui. Vous le
faites. Eh oui. C'est ça de draguer Sandrine Bonner à l'antenne.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, preuve indubitable de votre génie, mais pousserez-vous le discernement jusqu'à changer votre alimentation? C'est le thème de notre émission du jour en compagnie du chef Olivier Rollinger qui avait rendu, on s'en souvient, ses 3 étoiles Michelin et qui aujourd'hui milite pour un changement des mentalités vis-à-vis de la nourriture. Et heureusement, aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience, le monde bouge et plus vite que notre chroniqueur gastronomique Olivier Pouls qui arrive dans cette deuxième heure. Lui aussi, il bouge, mais plus lentement. Comme le constatent souvent nos invités végétariens.
Est-ce que vous le connaissez ? Oui, j'imagine, vous avez mangé forcément des pâtés lorrains.
Ah, le pâté lorrain, oui, oui, j'en ai mangé avant d'être végétarien.
Moi, je mélange porc et veau pour avoir un peu plus de moelleux.
Oui, il mélange porc et veau quand il rencontre un végétarien, c'est vrai que c'est plus efficace. Olivier Rollinger, on continue d'évoquer votre combat présenté dans ce manifeste pour une révolution délicieuse chez Fayard. Juste le temps de vous présenter nos deux derniers concurrents du jour. Suspendu à la direction que prendra votre pouce tout à l'heure, il s'incline devant vous, eux qui vont s'entretuer pour cette couronne en plastique non recyclable. À ma gauche, je l'avoue, ça s'est un peu mal terminé entre nous la dernière fois qu'on s'est vu.
C'est vrai que c'est pas toujours facile de faire jouer une femme.
Mais non, mais pas du tout. Mais je fais référence au fait que j'avais retoqué votre sujet en conférence de rédaction. Enfin, Ève Roger, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On verra ça après, en plus c'est pas du tout ce que tu m'aimes. Bref, alors Ève, vous êtes la chef du service société d'Europe 1, toujours à l'affût des derniers changements sociétaux, et aujourd'hui vous nous présentez un livre fort intéressant.
Ah oui, alors là je vais vous raconter, je vais vous expliquer pourquoi il est bon et même préférable de prendre des vestes, beaucoup de vestes,
yes,
pour pouvoir réussir dans la vie.
Eh ben tiens, tout s'explique. À ce côté, Olivier Rollinger, il revient plus intègre que jamais, notre dauphin d'or préféré. Axel de Tarlet, ma première question est simple, il n'y a pas de son à la con, c'est à vous de parler. Comment s'est passée votre formation anti-corruption de lundi ?
Eh ben, j'ai appris que la corruption, ça n'était pas que des mallettes d'argent, c'était très 20e siècle. Ça, maintenant la corruption, c'est on vous donne des cadeaux, on vous invite
ah bah,
à quelque
heureusement
part.
Heureusement, vous avez fait une formation pour le découvrir.
On embauche votre enfant, on le prend en stage, etc.
Non, c'est vrai, c'est pas possible.
Oui, voilà.
Donc, vous avez découvert.
Lundi dernier, il y avait une formation corruption à Europe 1 et je sais pas
non,
pourquoi.
Anti-corruption.
Anti-corruption. Et j'ai été le premier de la rédaction. J'ai été le premier de la rédaction à devoir y assister. Donc voilà. Et donc, on y apprend que la corruption n'est plus monétaire, elle est. Elle est en, comment dire,
immatérielle.
Oui. Mais il y avait un projet d'ailleurs.
Oui, j'y étais aussi.
Ah, vous aussi, ah bah, finalement.
Oui, absolument.
Bon, alors Axel.
C'est sur des avantages en nature.
Voilà, c'est ça.
De toutes sortes.
Et il lui a fallu la formation pour le découvrir. Alors Axel de Tarlet, de quoi vous nous parlez aujourd'hui? De la SNCF ou plutôt du coût réel de la grève à la SNCF?
Exactement. Eh ben, c'est exactement comme pour la corruption. Il y a le coût monétaire, ce qu'a perdu la SNCF, ça va être 700 millions d'euros. Et il y a le coût immatériel, ce sont nos habitudes qui ont changé et qui font que demain, on prendra moins le train. Oh, c'est bien dit, je commence bien, je vais gagner aujourd'hui.
Vache, il est sûr de lui. Le vrai coup de la grève pour la SNCF ou la revanche de Jean-Claude Duss, quel sujet l'emportera? Vous votez via Twitter. En attendant, on continue de réinventer notre alimentation avec notre invité d'honneur, le cuisinier Olivier Rollinger, grand amoureux des épices, comme Eva, sauf qu'elle, elle ne sait pas doser.
Je fais cette merde. Ça débouche la chiotte.
Et vous, vous aimez les épices? On est allé vous poser la question dans la rue, une question qui ne nous ramènera pas le Pulitzer. On est allé vous la poser quand même. En plus, il faisait froid.
Mon épice préférée, je dirais le cumin. Bah, le cumin, c'est très bon avec les carottes. Carottes, cumin. Je mange du piment à tous les repas pratiquement. Et puis, dès que je peux, je rajoute du cumin.
J'aime bien les épices à tagine. C'est des mélanges qui sont tout faits, qui sont super bons. Moi, j'en mets avec tout. Et des fois, je me dis que c'est pas une bonne idée.
Du curcuma, du paprika, du ras el hanout si je fais un petit couscous.
Larissa, ça déchire. Non, littéralement. Vous devenez tout rouge, vous en pouvez plus, vous avez plus envie de manger. Voilà. Puis après, vous avez la diarrhée.
Ras el hanout, ça s'appelle, c'est jaune.
C'est la soupe fric. Avec le fric, pas l'argent. Hein. Le fric, c'est le blé, quoi.
Le blé cassé. Voilà.
J'aime beaucoup la cuisine et j'aime bien les émissions de cuisine. Alors faites beaucoup d'émissions de cuisine et je serai contente.
Olivier Rollinger, les épices, c'est votre passion. Il y a d'ailleurs un chapitre de livre qui s'appelle « Tu t'ouvriras au monde ». Les épices, c'est quoi? C'est le métissage pour vous?
Les épices, mais il faut bien comprendre que depuis la nuit des temps, enfin en tous les cas depuis la Haute Égypte, toutes les communautés ont souhaité intégrer dans leur cuisine quelque chose justement qui ne poussait pas dans leur territoire, dans leur cercle. Et alors, il y a eu des thèses en fait. Pourquoi mettre des épices dans la cuisine? Alors, on dit qu'il y a une dimension spirituelle, parce que c'est la seule manière de rentrer en relation avec l'au-delà, c'est le parfum, donc les épices. Mmh. La deuxième raison, c'est une question de santé, parce que c'est une question des principes actifs. Et il a fallu, simplement depuis 20 ans, qu'on reconnaît, en tout cas que la science reconnaît les vertus des épices. Mais au-delà, c'est toujours inviter à sa table l'autre, l'étranger, et de justement, c'est par rapport au mouvement locavore, c'est assez intéressant, parce que c'est de ne pas dire il n'y a que les choses qui poussent chez moi qui sont bonnes, mais au contraire, je suis persuadé que dans une autre culture, une autre civilisation, il y a aussi quelque chose de bien. Et consommer des épices, c'est comprendre l'autre, déjà l'aimer, et c'est pas du tout perdre son identité, c'est enrichir sa propre identité de l'identité de l'autre.
Un des nombreux conseils du livre d'Olivier Rollinger pour une révolution délicieuse. Vous tentez parfois, maladroitement comme moi, de faire la cuisine pour vos proches, mais comme moi, ces soirs-là, en voyant ce que vous mijotez, vos proches, sans cœur, s'exclament
« Oula, je vais peut-être pas bouffer à la maison alors !»
Salaud de proche.
Europe 1.
À suivre, un râteau est toujours une expérience douloureuse. Certains ont même du mal à s'en remettre.
J'ai mis l'Adagio d'Albinoni, j'ai avalé 2 tubes de laxatif et puis hop. J'ai perdu 16 kilos et ma moquette.
Pourtant, un livre va changer votre vision du râteau. Il s'intitule « La théorie de la veste ». Il nous explique que sentimentalement, plus on prend de râteau, mieux c'est. Les amis, vous avez devant vous un champion.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Le chef Olivier Rollinger est notre équipier sauvage ce soir. Comment modifier son alimentation dans un sens qui soit bénéfique et pour la planète et pour notre santé? Telle est la question qu'on se pose avec l'auteur d'un livre manifeste intitulé « Pour une révolution délicieuse » chez Fayard. Olivier, on continue d'en parler, mais l'heure est venue d'écouter notre troisième concurrent du jour. Très franchement, Ève Roger, j'espère que votre sujet est optimiste, porteur d'espoir, parce qu'hier avec Eva, on en avait gros sur la patate. Quand Anne Le Gall a conclu son papier sur les espèces disparues, on a voulu y croire. Avec Eva, on se raccrochait au moindre petit espoir que peut-être l'animal en question n'est pas tout à fait disparu. Espoir rapidement douché par la froide lucidité d'Anne Le Gall. Comment peut-on être sûr, Anne, car moi vous me connaissez, je suis résolument optimiste. Comment peut-on être sûr qu'il n'y en a pas un petit?
Oui, qui se cache derrière un...
Un petit espadon.
Derrière une petite pierre, oui.
Un petit bébé.
En fait, la dernière fois qu'on a vu cette espèce vivante, c'était en 2003.
Ah oui. Eh oui. Alors aujourd'hui, je vous préviens, Roger, pas de sujet anxiogène, je ne suis pas d'humeur.
Ah bah c'est pas mon genre. Hein.
Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui?
Alors, c'est un autre petit livre délicieux qui sort aujourd'hui chez Flammarion et qui s'appelle « La théorie de la veste ». Et je vous fais le pitch. L'auteur nous promet à tous de faire un malheur dans notre vie professionnelle ou même amoureuse à condition de prendre donc des vestes. Le refus d'un client, le rejet d'une idée par son supérieur hiérarchique... Le refus d'une chronique par Mathieu Noël.
Ça peut arriver.
L'indifférence de celui à qui on propose un rendez-vous professionnel ou même un rendez-vous galant. Eh bien, plus on s'habitue à ce qui accompagne le râteau, c'est-à-dire la honte, la vexation, l'humiliation parfois, et plus on s'endurcit. Et donc, moins ça fait mal, plus on ose. Plus on ose, plus on vise haut et plus on a des chances de décrocher le gros lot. Une fois de temps en temps. L'auteur du livre s'appelle Annabelle Roberts, elle est canadienne et elle s'est fixé un quota de 3 vestes par jour.
Mon Dieu.
Elle dirige une agence de com et le jour où je l'ai rencontrée, elle essayait d'inviter des huiles du CAC 40 au lancement de son livre, justement, parce qu'elle fait une petite fête ce soir. Écoutez.
Aujourd'hui, par exemple, il y a une dame sur laquelle, qui est RH d'une grande société CAC 40, sur laquelle je sais que je peux compter pour qu'elle m'envoie bouler. Donc je lui envoie un petit texto pour l'envoyer à mon lancement de bouquin. Ça sera super qu'elle vienne, comme ça je lui serre la main, peut-être on va faire affaire ensemble. Elle m'a répondu, non, je suis pas disponible, etc. Bim, veste.
Bim, veste. Ça y est, elle avait rempli son quota.
Mais par jour, moi ça me déprime.
Ça fait beaucoup, 3 par jour. Ah, oui, en amour, non. Ça marche aussi?
Eh bien oui, ça marche, bien sûr, mais à condition de ne jamais oublier un principe, c'est que chaque demande doit être accompagnée d'un zeste d'humour, d'un peu de sincérité, ce qu'Annabelle Roberts appelle le paramètre mignon. Exemple de cas, un garçon un peu gros, un peu moche, aimerait bien inviter la fille la plus jolie de l'entreprise à boire un verre. Écoutez Annabelle.
Demander des vestes, c'est pas être lourd. Hein. Il faut être mignon. Il faut dire, écoutez, je suis sûre que ça va être non. Vous êtes carrément la fille la plus belle que je connaisse dans tout mon entourage, etc. Et en plus, vous êtes brillante. J'ai juste envie de boire un verre avec vous. Est-ce que ça vous dit? Elle va vous dire non, probablement, ok? Mais si elle dit oui, votre samedi soir va être carrément plus intéressant si vous n'avez pas pratiqué la théorie de la veste.
Voilà.
Oui, mais sauf que là, on peut dire oui, mais un peu par empathie, voire par pitié.
Eh bien, c'est le début de quelque chose.
Ah oui, sur un malentendu,
Maintenant, je pense que c'est une belle manière de finalement s'ouvrir aux autres.
Absolument.
C'est une
façon de retrouver la conscience.
C'est-à-dire que l'échec, je sais pas, qui disait où je gagne, mais je ne perds jamais. C'est-à-dire où je gagne, où j'apprends. Voilà, je crois que c'est pas.
C'est pas du Churchill, ça, non
Ah, j'aime bien ouais, Excel quand vous.
Non, vous tentez comme
non,
ça.
Non.
Ou il y avait
Mandela, je crois, non. Bon,
Werner Braun.
Jean
disait...
Moulin, tu fais n'importe quoi. Tu...
C'est Alain Sirou, oui, je cite mes sources, qui me disait que Werner Braun, quand une fusée n'explosait pas en solde, n'explosait pas, et donc tout le monde était content, il disait bah pas moi parce que j'ai rien appris.
Ouais. Ah oui.
Eh, oui, c'est, voilà. C'est exactement la chose. Non, mais je... elle a raison, cette dame, ça doit être un très
on
joli.
On continue, alors vous allez voir.
Pour donner l'auteur de la citation. Quand je oui. gagne pas, j'apprends. C'est Nelson Mandela.
Ah ben, j'ai dit Mandela.
Ah, vous l'avez dit. Ah, ben, vous êtes le meilleur, Olivier Rollinger.
Bah, quand même.
Alors, la veste, Ève Roger, il vaut mieux la prendre par SMS ou par téléphone?
Alors, la veste par SMS, c'est pas mal. Un client ou un patron de média que vous avez sollicité qui vous répond pas ou qui vous répond non, ça fait pas trop mal.
Oui, c'est moins violent.
Mais c'est moins bien que la veste par téléphone, parce que c'est la pire, la veste par téléphone.
Oui, on entend
l'intonation. C'est la plus humiliante, donc c'est celle qui vous fait le plus progresser.
Ouais.
Donc, allô, bonjour. Est-ce que je vous dérange? Oui.
Mais on peut pas loser tout seul dans son coin, il faut être accompagné.
Non, ça c'est le deuxième principe de la théorie. C'est indispensable de désigner un copain ou une copine de la loose qui doit vous soutenir, vous féliciter à chaque échec, applaudir le courage que vous avez mis.
Vous avez
en
ce rôle-là vis-à-vis d'Emmanuel Duteil, votre ami du service éco.
C'est applaudir le courage que vous avez mis en œuvre pour aller chercher cette veste, parce qu'il faut aller la chercher. Il est là aussi pour vous réconforter, évidemment, dire que c'est grâce à une bonne loose qu'on va y arriver. Et moi cet après-midi, je me demande qui va être mon copain ou ma copine de la loose. Si jamais je n'ai pas convaincu Olivier Rollinger.
Oui. Sacré Ève Roger. Eh bien, voilà un sujet qui nous met en joie. Tous ceux qui ont connu des vestes. En tout cas, beau travail Ève Roger. Suffisant pour remporter la prestigieuse couronne. Nous verrons ça peu avant 18h. Au fait, dis-moi Poussinette, pourquoi t'as dit ça tout à l'heure? En vrai, t'avais trouvé comment l'autre jour?
À la va-vite et n'importe comment.
Ah ouais, ok.
Wow. Europe 1.
À suivre, qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé et sur les écrans? C'est la question qui suffit parfois à faire exploser un couple.
C'est trop horrible.
Non, c'est juste une expression, Eva. Justement, pour vous éviter de grands débats houleux avec votre conjoint, Eva, qui elle n'en a pas, a le temps de tout regarder pour vous en amont et de vous sélectionner le meilleur. Ses conseils télé juste après Loose and the Yakuza, Dilemme sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Et si, pour vivre mieux, nous mangions mieux? L'équipe est sauvage spéciale gastronomie de demain continue avec, évidemment, pour évoquer la gastronomie du futur, un grand chef d'aujourd'hui, car comme dirait Ève Roger...
C'est chez le poissonnier qu'on achète les moules.
Un bon sens qui devrait nous guider aussi en matière alimentaire. Alors, Olivier Rollinger, dans ce livre, pour une révolution délicieuse, vous dénoncez pas mal de choses, vous dénoncez aussi l'uniformisation culinaire à l'œuvre avec la mondialisation. Et ça, c'est vrai. Quand on voyage un peu, on se rend compte d'un truc qui est quand même dingue, c'est qu'aujourd'hui, dans un hôtel de la même catégorie, on mange la même chose à Singapour qu'à Sao Paulo.
Quel que soit le niveau de la restauration, c'est-à-dire que ce soit le... Enfin, vous avez faim le midi, vous mangez un truc, et ben vous trouvez quoi? Vous trouvez le burger, vous trouvez le kebab, vous trouvez la pizza. Et puis, vous montez même, vous allez dans ce qu'on appelle la gastronomie.
Vous
moi,
trouvez
pas
le ceviche,
ce mot-là, mais
trouvez...
bon, la cuisine, la grande cuisine. Et c'est, il y a une espèce de rouleau compresseur, un pseudo-luxe, qui voudrait que c'est toujours avec le balsamique, le yuzu ici, le machin. Et vous allez au Japon, vous allez à Los Angeles, vous allez à Londres, vous allez... À Berlin, c'est toujours la même chose. Donc, il y a un moment donné, la cuisine doit être l'expression d'un environnement naturel, culturel et affectif. Et là, eh bien, notre rôle, justement, de cuisiner, c'est de défendre la diversité des cuisines du monde. Donc, il faut les uns les autres batailler pour que nos enfants aussi, demain, c'est pas l'écologie et ces transitions de ce nouveau monde, c'est pas de faire un monde uniformisé, mais au contraire, dans la richesse de sa diversité.
Voilà un bel enseignement. Face à vous, Olivier Rollinger, elle est notre spécialiste média. Elle est encore fébrile après la chronique d'Ève Roger sur les râteaux, qui a fait remonter pas mal de souvenirs douloureux, dont un vent mémorable vécu ici même avec Élie Semoun.
On avait bu un verre ensemble avec Vizorek, Élie.
Oui.
Vous en souvenez?
Oui.
Juste avant Jérôme Commandeur.
Oui.
Avant le spectacle de Jérôme.
Et donc...
Même le réécouter, ça fait mal, alors le vivre, j'imagine à peine. Néanmoins, Eva, je vous connais, vous allez trouver en vous la force de rebondir et de nous dire quoi regarder à la télé ou sur les écrans ce soir.
Eh bien écoutez, je vous en parlais lundi, les séries sur le thème de la religion se multiplient. J'évoquais The New Pope sur Canal+, et sur Netflix, c'est une fiction qui m'a à la fois énervée et intriguée. Ça s'appelle Messia, c'est l'histoire d'un jeune homme aux allures de Jésus, mais des années 2020, qui se fait appeler Al-Massi, extrait de la bande-annonce.
Il vient de nulle part, on ne sait pas qui il est.
Qu'est-ce qu'on sait de lui?
Il guide des gens désespérés Alors c'est une secte ?
On ne sait pas avec qui il est allié. Il pourrait réunir une armée. Il pourrait bien les conduire à leur mort.
Alors on ne sait pas grand-chose sur ce garçon. On ignore la religion, sa religion. Et pourtant,
il ne le dit pas.
En quelques jours, il va mener un groupe de réfugiés palestiniens à la frontière israélienne. Il va sauver un enfant touché par une balle à Jérusalem. On le retrouve quelques heures plus tard au Texas, dans un village paumé où on ne sait par quel miracle il y a une tornade qui va tout balayer, sauf l'église du village en question. Donc de quoi bouleverser quand même l'Amérique et une partie du Moyen-Orient qui croit voir en lui donc un nouveau messie et qui intrigue évidemment alors à la fois un agent des services secrets israéliens et une responsable de la CIA qui enquête sur ce personnage.
Mais c'est réaliste ou c'est un petit peu réaliste. Onirique ?
Non, c'est très réaliste, c'est absolument pas onirique.
D'accord.
Ça donne d'ailleurs un côté thriller en fait à l'intrigue. Et justement, si on devait un peu comparer ce thriller que j'appelle thriller politico-religieux, il y a un peu de Homeland, si vous avez déjà vu cette série américaine. Il y a aussi un peu de House of Cards. Il y a aussi du Bureau des légendes, notamment parce qu'il est difficile de ne pas penser à Mathieu Kassovitz quand on voit Tomer Sisley dans le rôle de l'enquêteur israélien.
Des belles références.
Alors, ce sont quand même des belles références. Donc, tout ça a l'air très, très bien. Sauf que cette comparaison, elle est née dans mon esprit qu'au cinquième épisode, sur 10 épisodes que constitue la première saison.
Il faut un peu de courage.
J'ai attendu le cinquième épisode. Donc, pour comprendre d'abord l'intrigue et puis comprendre aussi les thèmes qui étaient abordés, quel sens on voulait donner à cette série. Alors, à savoir l'aveuglement des foules, la crédulité, le désordre social, le bien, le mal, la fin de l'histoire, le doute, etc. Alors, série réussie ou pas, ben, pour le coup, je vais vous laisser juger. Moi, encore une fois, j'ai vraiment eu des réserves jusqu'au cinquième épisode. Le point positif, en fait, c'est le questionnement que suscite la série. Donc, certains rigoristes, écoutez bien, chrétiens et musulmans, ont trouvé bon de lancer une pétition contre la série face à cette utilisation de l'image du Messie. Alors, à croire qu'ils n'ont pas du tout regardé, même pas jusqu'au cinquième épisode, d'ailleurs.
Mais c'est possible.
Mais regardez, parce que quand même, ça suscite des interrogations. Ça s'appelle Messia et c'est sur Netflix.
C'est donc sur Netflix que ça se passe ce soir. Merci, Eva Rock.
Europe 1.
À suivre, pour dresser le vrai bilan humain et financier de la grève à la SNCF, plus qu'un simple chroniqueur. Axel de Tarlé est pour moi un véritable bras droit, un contremaître qui, à ma demande, surveille ses collègues et, le cas échéant, leur fait signe de se taire lorsque, hors antenne, il s'embarque dans une trop longue discussion avec l'invité et que l'émission risque de prendre du retard.
Mais déjà, dans American Beauty, il faisait des longs plans séquences. La scène du dîner avec les parents et tout. Déjà, à l'époque, il avait fait des longs plans séquences.
Faut que tu fermes ta gueule.
Merci Axel. Qu'est-ce que je ferais sans toi entouré de tous ces bavards.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Rire et se nourrir, le programme d'une vie, écrit notre invité, le chef Olivier Rollinger, dans son livre. C'est précisément la philosophie de l'équipe sauvage. Chaque après-midi, 2 heures avec de la bonne humeur, des découvertes et même à la fin, du manger. D'ailleurs, j'entends déjà le rire raffiné de notre expert gastronomique Olivier Pouls. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Ce n'est pas encore l'heure de l'apéro, non? Et bien, qu'est-ce que vous faites là, Eva?
2 petits pâtés de foie gras et j'emmerde la diététicienne.
Bien, Olivier Rollinger, on continue de
ça,
feuilleter.
Ça, j'aurais pu vous dire en vrai.
Ah ouais, ça, c'est vrai, j'avais pas besoin de Catherine Fraud pour vous faire dire. Olivier Rollinger, on continue de feuilleter votre livre Pour une révolution délicieuse, où vous plaidez pour une alimentation plus raisonnée, plus raisonnable aussi, par exemple. On arrête enfin de bouffer des tomates en hiver. Ça, c'est quand même la base.
Oui, évidemment, c'est la base. On a l'impression d'ailleurs que ce fruit légume qui est la tomate, c'est indispensable. C'est presque devenu comme de la farine, des œufs, du lait.
C'est-à-dire
que c'est toute l'année, quoi.
Or, non.
Or, pas du tout. Et alors, le drame, c'est que certains voudraient dévoyer l'esprit de l'agriculture biologique et nous faire avaler des tomates bio en plein hiver. C'était la fameuse bagarre l'année dernière sur de chauffer ou pas chauffer les serres bio.
On en a parlé.
Eh bien, il est évident que des tomates au mois de janvier, au mois de février, un produit de saison et un produit bio, c'est compatible. Un produit bio et pas de saison, c'est incompatible. C'est pas miscible. Il faut pas tomber dans ce travers. Alors les gens, ils vont dire, ah ben oui, mais on est en concurrence directe avec l'Espagne et l'Italie. Eh bien oui, il y a plus de soleil en Espagne, en Italie en début d'année. Il y a des aberrations qu'il faut quand même un petit peu lisser, là.
Olivier Rollinger, vous militez également pour que l'éducation nationale instaure des cours d'éducation alimentaire dans les écoles, comme on a instauré des cours d'éducation physique.
Ça
paraît
tellement
logique. Évident quand on vous lit. C'est vrai que ça n'existe pas.
Non, mais il faut réapprendre aux enfants à comprendre ce qu'est le vivant, ce qu'est simplement une graine. Une graine que l'on peut prendre, qui a 1 an, 10 ans, 50 ans, on la met dans de la terre un peu humide, et là, elle va germer. Quand il mange un yaourt, c'est du lait, que pour faire le lait, il fallait une vache, pour faire la vache, il fallait traire la vache, et que pour que la vache ait du lait, il fallait qu'elle ait un veau. Mais non, mais c'est un truc, je suis persuadé. Et là, l'éducation alimentaire permet de leur dire... c'est votre santé de demain, c'est votre plaisir avant tout de demain. Mmh. J'ai vu juste, moi, j'avais fait un rêve. On parle de grève en ce moment, là, à tout va.
Ah oui, on en
et je
parle
suis
un
dit,
peu.
Et si les enfants de maternelle se mettaient en grève et appelaient notre président de la République à imposer justement l'éducation alimentaire obligatoire dans toutes les écoles de France et de la République.
J'ai Emmanuel Macron, là, un SMS qui me dit « Je ne crois pas que j'ai assez à faire en ce moment. » On continue d'évoquer votre combat pour une alimentation plus saine, Olivier Rollinger, mais l'heure est venue d'écouter notre ultime concurrent du jour, Axel de Tarlet, notre expert éco, va maintenant dresser le vrai bilan de la grève à la SNCF. Les statistiques jouent en sa faveur, puisqu'à chaque fois qu'il nous a parlé de la SNCF, sa chronique a été un succès. Bon, sauf la fois où il s'est emmêlé les pinceaux et qu'il ne savait pas comment conclure. Vous connaissez Jean-Michel Pas de Chute ?
Jean-Michel Pas de Chute, un spectacle sans chute à mourir de rire avec le maître nageur.
La semaine dernière, je suis allé à la piscine dans mon quartier, j'ai amené mon maillot de bain.
Découvrez vite Axel Pas de Chute.
C'est quand même un problème pour Emmanuel Macron, parce que s'il finit par reculer, je ne sais pas comment terminer ma chronique, mais tout ça pour dire que la grève à la SNCF pourrait être longue.
Belle fin.
Belle fin. Hein.
Mais oui.
J'ai le sens de la chute.
Mais Axel, c'était pas trompé.
Bon conseil.
Il a pas trompé.
Oubliez que vous n'avez pas de chute. Foncez. Vous nous parlez des conséquences, mais des vraies conséquences, pas seulement financières, de la grève à la SNCF.
Ouais, elles sont doubles. Il y a les conséquences financières avec tous les billets non vendus, les billets remboursés, etc. Ça, c'est 700 millions d'euros. Et puis, il y a les conséquences immatérielles, comme on a dit. Ce sont tous nos changements d'habitude. Alors ça, c'est très vrai pour les entreprises. Vous savez, celles qui confiaient leurs marchandises à la SNCF, bah, elles ont dû prendre des camions. Et une fois qu'on a remis les camions sur la route, c'est très difficile de revenir pour le fret sur la SNCF. Il y a aussi en région, alors à Paris, en Île-de-France, c'est vrai qu'on est un peu obligé de prendre les transports en commun, mais en région, bah, vous vous êtes arrangé avec un collègue du bureau, vous faites du covoiturage, vous faites du blablacar, vous vous mettez au vélo et vous avez changé vos habitudes et c'est pas sûr qu'ensuite vous repreniez le TER. Et puis il y a surtout ce qui est plus grave, c'est que depuis le 1er janvier 2020, que s'est-il passé ? Eh bien, les TER, les régions, sont libres de quitter la SNCF pour aller à la concurrence. Je vous rappelle que les trains régionaux, depuis le 1er janvier de cette année, sont ouverts à la concurrence. Et vous avez les présidents des grandes régions qui disent « Ah bah, parce que qu'a-t-on constaté dans les grandes villes, à Bordeaux, à Lyon ? C'est que les tramways, les bus marchaient, parce que le transport local était confié à des sociétés privées, et non pas comme à Paris, à la RATP, qui est une régie publique. »
Le libéral se réveille.
Eh bien oui, mais du coup, vous avez une pression, par exemple, Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a déjà dit « Eh bien moi, je vais mettre la SNCF
en
compétition. » Et il a promis, alors je vais même le dire, il a dit « On va avoir des trains à l'heure, on va avoir des rabais et une qualité de service extraordinaire dès lors qu'on sera avec un opérateur privé. » Et donc ça, c'est la troisième chose, c'est que peut-être que ça va accélérer ce processus de privatisation des trains régionaux. Et donc, c'est une difficulté de plus pour la SNCF. J'ajoute que, d'ailleurs, s'il y a autant de grèves à la SNCF, c'est autant pour la réforme des retraites, enfin, contre la réforme des retraites, que contre cette arrivée de la concurrence qui est matérielle, qui est effective depuis le 1er janvier.
Voilà. C'était votre chute ?
Non, mais...
Vous avez fait encore plus fort que la dernière fois ! Le mec ne sait pas conclure un papier. Non, le mec, il a les bonnes infos. Il est bon journaliste.
Il ne chute jamais.
Mais c'est
un atout de ne jamais chuter.
Ça peut être vu comme ça, oui, c'est vrai.
Ça vous permet de vous moquer de moi. Et il n'y a pas de meilleure chute qu'un sourire pour clôturer une
fois. Voilà la chute. Il a appelé lui-même la chute. Merci, Axel de Tarlet. Votre chronique vous permettra-t-elle de repartir couronné, ce qui vous rappellera le bon vieux temps d'avant la guillotine dans votre famille ? La réponse, Marquis de Tarlet, dans un instant.
Europe 1.
À suivre, il est le Christophe Ondelat des fourneaux. Parfois d'ailleurs, plutôt que délice in extremis, sa chronique mériterait de s'appeler sévice in extremis.
Vous la coupez en deux, vous la mettez au four tête vers le bas, et ensuite avec une fourchette, vous allez racler la chair qui s'étire comme des spaghettis.
Mais voilà, on peut être psychopathe et doué en cuisine. Chaque soir, alors que vous avez totalement oublié de faire les courses, Olivier Pouls vous sauve la mise avec une recette récup de dernière minute. A tout de suite, et n'oubliez pas de vous munir évidemment des ustensiles de base pour cuisiner.
Des fouets,
non.
Des cravaches,
non.
Des pinces.
Oui, non.
Des spéculums,
non,
des martinets.
Non, Christophe, non, une casserole suffira.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Tu prendras soin de toi et des autres. C'est l'un des chapitres en forme de conseil du nouveau livre du cuisinier Olivier Rollinger qui nous invite à une révolution délicieuse. Or, prendre soin de soi et des autres, c'est la passion de notre expert gastronomique.
Gosier d'or 2018, Foi d'argent 2019, je vous présente Olivier Pouls, le seul être vivant, capable, un soir de réveillon, après les huîtres, le foie gras, le homard, le chapon, le trou normand, le pré-dessert, les bûches et les mignardises, de venir vous chercher au salon où vous commettez et de vous lancer.
T'as goûté la charlotte au pain ? Si tu tapes un cauchemar, je paye un litre.
Bonjour Olivier Pouls.
Eh oui, si tu tapes un cauchemar, je paye un litre.
Bah, payez-le. Vous avez déjà entendu parler, je crois, d'Olivier Rollinger, Olivier Pouls.
Oui, et c'est vrai que là, je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis quand même un peu impressionné. C'est cuisiner ou donner des recettes devant Olivier Rollinger, c'est un peu comme si je me risquais à rapper devant Akhenaton, vous voyez.
Un truc que vous n'avez surtout pas fait en 2019.
Faut être culotté quand même.
Alors, je ne sais pas, Olivier, si vous avez lu ce livre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec tous les conseils qu'il y a dans ce livre. En effet, Olivier Rollinger nous préconise de devenir carnivore frugal. Alors vous, vous êtes un carnivore pas frugal, Pouls.
Non, mais je vois bien ce qu'il veut dire. C'est qu'il faut évidemment continuer à manger de la viande.
Ça vous réjouit pas,
mais... manger moins. Mais la question que je voulais poser, Olivier, c'est qu'en fait, quand j'ai lu ce livre, je me dis finalement, mais qu'est-ce qui s'est passé dans notre société pour qu'on ait perdu le bon sens à ce point-là. Parce que finalement, ce livre...
C'est du bon
moi,
sens.
Ma grand-mère, les chapitres, elle les connaissait. Hein.
Ah, mais elle aurait pu les écrire. Et toutes les personnes autrefois, on mangeait un territoire, on mangeait évidemment de saison... Parce qu'on n'allait pas. Vous savez, nous étions auparavant des mangeurs et des mangeuses, et nous sommes devenus des consommateurs et des consommatrices. Donc, à un moment donné, on se retrouve à acheter. Parce qu'on parle de viande, ce ne sont plus des élevages aujourd'hui, ce sont des usines à protéines. Mmh. Je ne parle même pas de la maltraitance animale. Mais ce que l'on donne aux animaux pour obtenir une viande qui n'a que le nom, c'est insupportable, avec en particulier des taux d'antibiotiques absolument inacceptables. Donc, on ne veut plus de cette viande. Moi, je vois le prochain volet de l'élevage des poulets qui est prévu en Bretagne absolument scandaleux, avec des fonds encore de la PAC, avec un apport de financement d'Arabie Saoudite pour aller nourrir des volailles avec du soja qui vient évidemment du Brésil, qui a nécessité une partie de la déforestation, avec évidemment du soja Monsanto OGM qui arrive dans nos ports bretons pour nourrir ces volailles qui ensuite sont envoyées dans les Émirats arabes. Il nous reste quoi, nous ?
La fiente. On marche sur la tête.
Il nous reste la fiente.
Ce qui est fou, c'est que non seulement la situation est grave, mais si on vous écoute, on n'est même pas en train d'amorcer un changement.
Non, puisque là, on parlait tout à l'heure des pesticides qui sont des herbicides qui sont une augmentation de 25%. On pensait que tout le monde avait quand même compris. Donc, j'appelle à ce soulèvement pacifiste alimentaire. Nous voulons, en France, une bonne alimentation pour les uns et pour les autres. Mais il nous appartient aussi de nous prendre en main et à commencer par faire un marché autre que dans un supermarché, de travailler avec nos producteurs, nos marchés, nos AMAP. Les choses se mettent en place. Le grand changement, c'est la bascule de l'écologie dans l'alimentation. Voilà la clé de la transition de ce nouveau siècle.
J'espère que vous avez pris des notes, Olivier Pouls. Comme notre invité, le chef Olivier Rollinger, Olivier Pouls milite lui aussi pour l'enseignement de la cuisine à l'école. Espérons que ses arguments, frappés au coin du bon sens, se frayent un chemin jusqu'aux oreilles de Jean-Michel Blanquer.
On continue à nous apprendre des théorèmes de maths dont on ne se servira jamais, alors qu'apprendre à cuisiner, on s'en servira tous les jours.
Bravo.
Tu crois que je me nourris avec Pythagore ?
Se tombe dans les bras. Olivier Pouls, ce soir...
Non mais j'assume.
On passe en mode récup ce soir. Mais pas de gaspillage, c'est d'ailleurs un des chapitres
du livre 17,
d'Olivier Rollinger.
Commandement 17 de votre livre, tu ne gaspilleras point. 10 millions de tonnes par an, c'est ce que nous jetons à la poubelle, sorti directement de nos cuisines, c'est le gaspillage alimentaire. C'est insupportable, c'est hallucinant, alors qu'il existe mille et une façons de recycler les choses. Et je vais vous donner 3 ou 4 exemples. Alors par exemple, le pain. On a tous des morceaux de pain qui traînent.
Faire un pas
fini.
Perdu.
Alors, vous pouvez faire évidemment un pas perdu. Bon,
Olivier Rollinger m'a lancé un regard du genre toi, tu connais vraiment rien en cuisine.
On voit que vous êtes en cuisine tous les soirs à la maison. Vous.
Oh, il m'a percé un jour.
En gros, si je ne passe pas, il ne mangera pas le pain.
Moi, je sais, de la chapelure.
Mais de la chapelure, voilà. Bien sûr, vous faites dessécher votre pain dans un four et puis vous personnalisez votre chapelure, vous la mixez, puis vous rajoutez un morceau de vieux parmesan tiens, qui traîne aussi, qui a séché, vous le râpez dedans, vous pouvez mettre quelques épices. Voilà, vous en connaissez un petit rayon là-dessus. Et puis plutôt que d'aller acheter des nuggets industriels, etc., vous allez avec cette chapelure paner vous-même vos petits morceaux de poulet et vous aurez quelque chose.
Vous foutez toujours de ma gueule, Olivier Rollinger, vous foutez de ma gueule. L'autre jour, qu'est-ce que j'ai fait à mon fils ? Des nuggets de poulet maison. À moi-même, j'ai fait la petite.
Alors, non, mais alors là, vous incarnez parfaitement l'homme qui ne cuisine pas assez à la maison. On en parle 15 jours avant, 3 semaines après.
Exactement.
Alors que votre femme cuisine tous les jours.
C'est vrai, je l'embrasse, ma chérie. Oui, c'est vrai, c'est vrai, cuisine tout le temps. C'est vrai.
Je veux dire qu'il faut cuisiner, mais pas simplement les femmes.
Je me souviens du risotto, il était très bon.
Oui, mais c'était il y a 3 ans.
Alors,
vrai.
Les restes de pâtes, par exemple. Alors, ça, c'est pour Eva, parce que quand on est 4, elle fait des pâtes pour 25. Donc, il en reste toujours forcément beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un petit gâteau de pâtes avec ça. On va rajouter 2 œufs, on va rajouter un petit peu de crème, quelques épices, par
bien
exemple.
Sûr, on les fait gratiner.
Un petit peu de fond de sauce tomate. On fait gratiner ce petit gâteau. C'est délicieux, c'est du recyclage qui ne coûte rien plutôt que les laisser à la poubelle.
Ou une salade de tomates, ou de pâtes.
Ou une salade de pâtes froides, par exemple. Les légumes, les carcasses de volaille, les blancs, les
un bouillon.
Les verres de poireaux, c'est faites des bouillons plutôt que d'acheter des bouillons cubes qui sont industriels, qui n'ont pas tellement. Qui sont pas terribles en termes de goût.
Aucun intérêt.
Mais vous prenez votre carcasse de poulet, vous mettez toutes vos chutes de légumes, vous mettez de l'eau et vous laissez cuire ça pendant 2 heures. Vous pouvez même le congeler et vous avez là un délicieux bouillon qui peut servir pour plein de choses, pour faire un risotto, pour faire des soupes. Utilisez ça comme ça aussi.
Vous avez appris à prendre ce bouillon-là et vous le mettre dans le bac à glaçons. Mais comme ça, après, vous pouvez faire des petits cubes.
Vous le concentrez. Concentrez très très fort et puis vous faites des petits glaçons et à chaque fois, hop, un petit glaçon dans votre fond de sauce, ça donne du goût et vous avez recyclé. Hier, on parlait des pommes, tiens, des épluchures de pommes.
Ça m'a tellement envie qu'Ève Roger n'a plus le temps de noter. Elle a son stylo, elle ne sait plus où elle en est.
Je pensais au bac à glaçons qu'on mettrait dans l'apérole, par exemple.
Chacun sa priorité. Il y a des gens qui se nourrissent simplement avec un apéritif, peut-être comme vous, semble-t-il, mais Olivier et moi, on a un autre regard sur la vie et sur le monde.
Janvier sans alcool, on le rappelle.
Oui, on le rappelle.
Pour terminer, on parlait de pommes hier avec les pommes au four, qu'on n'avait pas épluchées. Mais quand vous épluchez vos pommes pour faire une tarte aux pommes, vous les lavez bien si elles ne sont pas bio. Mais ces épluchures de pommes, vous en faites des petits chips. Ça aussi, ça marcherait bien. Comment légèrement saupoudrées de sucre, vous les mettez dans un four sur une feuille papier sulfurisé, un four chaleur tournante à 150 degrés pendant 30-40 minutes. Et vous les sortez après, c'est croquant. Vous les laissez dans une petite boîte en métal et vous pouvez les manger sur 3-4 jours. On peut rajouter un petit peu d'épices aussi, un petit peu de cannelle par exemple. Et vous avez recycler vos éplucheurs de pommes.
Recycler ces éplucheurs de pommes. Il fallait y penser.
Toujours, c'est le principe de refuser, recycler, réinterpréter.
Mandela.
Non.
Moi, j'avais une autre théorie. C'est Lavoisier disait rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Ouais, on pourrait dire rien ne se perd, rien ne se jette, tout se transforme.
C'est
le Lavoisier culinaire.
C'est beau. Ouais. Une citation d'Olivier Pouls.
C'est pas une belle chute, là, pour le coup.
Oui, c'est pas mal. C'est une très belle chute. On remercie Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Comme pour ces pauvres anguilles frétillantes jadis entre les mains de Maïté, c'est bientôt la fin du voyage pour les membres de l'équipe sauvage.
Alors, c'est rien.
Qui sera élu chroniqueur du jour? Qui au contraire se prendra un violent coup de massue? Les votes sont clos. A tout de suite pour la grande finale.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Vous ne regarderez plus jamais une tomate de la même façon, ni un chicken nugget. Désormais, quand vous ouvrirez une boîte de Knacky Balls, vous vous exclamerez...
Oh, pourquoi ça pue ?
Le grand chef Olivier Rollinger était notre invité cet après-midi pour nous initier à l'art du manger bon. Son livre Manifeste pour une révolution délicieuse est disponible chez Fayard. Alors Olivier, en rendant vos 3 étoiles, vous avez décidé de dire non à la compétition. Nous, on lui dit oui. Qui sera élu chroniqueur du jour? Lequel de nos journalistes vous aura le plus intéressé cet après-midi? C'est l'heure du quitte ou double. Ils ont chacun 10 secondes pour plaider leur cause ou vous faire une démonstration d'un autre type, d'un autre talent. Oui, Axel de Tarlet, je crois que vous voulez tenter un rap.
Je suis de bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça.
Je suis de bonne humeur ce matin.
Vous passez votre tour, visiblement. Jean-Philippe Ballas, pourquoi faudrait-il voter pour vous aujourd'hui?
Je suis venu avec Paul McCartney, Tina Turner, Charlie Basset, je ne sais pas ce qu'il vous faut.
C'est vrai que c'est pas mal. Alain Siroux.
Parce que vous qui avez vécu, Olivier, la marche de l'homme sur la Lune, vous savez que ce qu'on a découvert là-haut, c'est la Terre. Et que cette Terre, c'est elle aujourd'hui qui est au centre de notre attention.
Il est trop fort.
Tiens, Axel, note un petit peu l'écriture d'Alain Siroux. Hein? Ça
alors,
t'apprendra.
Moi, il faut voter pour moi parce que je m'engage à acheter 10 exemplaires de votre livre si vous votez pour moi. J'ai pas tout compris à mon stage anticorruption, comme vous pouvez le constater.
Il a rien compris. Ève Roger, pourquoi voter pour vous et vos râteaux?
Eh bien, j'ai demandé à Annabelle Roberts, l'auteur de la théorie de la veste, de se faire mon avocate. Elle vous parle à vous, Olivier Rollinger.
Par rapport à ce que je connais de vous, messieurs, et votre parcours et votre goût pour l'aventure,
Vous avez l'air plutôt ambitieux. Et ce livre a été écrit pour les ambitieux. Donc si vous votez pour l'ambition, vous votez cette semaine pour Yves Roger.
Pour Yves Roger. Voter pour Yves Roger, non pas pour Yves Roger. Je ne sais pas qui est Yves Roger, certainement votre frère. On l'appellera tout à l'heure. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Je dois vous dire, c'était très très serré. Vous êtes de plus en plus nombreux à voter tous les matins et on vous en remercie. Donc n'hésitez pas, c'est sur Twitter. Et c'est Jean-Philippe Ballas qui remporte les deux points ce matin.
Jean-Philippe Ballas, la musique, ça fonctionne toujours. Hein. Ça nous renvoie à nos souvenirs. Donc Jean-Philippe Ballas, deux points. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui à Alain Siron. Parce que je donne toujours mon point à Alain Siron, vous le savez, quel que soit le sujet. Mais vous le savez, ici, c'est l'invité qui, muni d'un couteau japonais bien affûté, doit trancher. Olivier Rollinger, qui, selon vous, parmi les journalistes d'Europe 1, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Eve, j'aurais probablement voté pour vous, mais le mot d'ambition de votre RSE ne me convient pas. Parce que je pense que ce n'est pas l'ambition qui doit nous amener justement à prendre des vestes.
On a trop fait.
J'avais pas dicté son texte. Hein.
Bah oui, mais Axel.
Bah quoi ? Non, ça part mal là.
Axel, vous êtes un gentil garçon.
Non, pas de même, pas de même. Vous avez gagné.
Vous êtes un gentil garçon, ça part encore plus mal.
Mais
Non,
c'est quand même pas facile votre histoire. Et puis, on en a marre de cette histoire de grève, de SNCF, de trucs. Donc
moi, je n'achèterai pas votre livre.
Et je continuerai d'aller au McDo. Et toc,
Quant à vous, Jean-Philippe, évidemment, vous avez été jusqu'à me parler des scrambled eggs
je peux comprendre.
Mais je remets mes points à Alain Siron. Pourquoi ? Parce que on nous a parlé peut-être d'un espoir extraordinaire, parce que si jamais vraiment ça va mal, parce que je disais, ma génération, nous rêvions d'aller dans l'espace et la conquête de la Lune. Aujourd'hui, toute la jeunesse du monde a simplement un défi à relever, c'est comment sauver la planète Terre. Alors, nous faites rêver, espérer que peut-être demain, nous pourrions aller sur une autre planète où cette exception qu'est la vie puisse à nouveau enchanter l'humanité.
Le verdict est tombé, c'est Alain Siron, le Greta Thunberg grisonnant, qui l'emporte. C'était la 94e journée
de
l'équipe sauvage. Non, pas du tout. On prendra une photo. On remercie Olivier Rollinger, dont on vous invite à découvrir les conseils dans son livre manifeste pour une révolution délicieuse chez Fayard. Merci également à tous mes journalistes, Eva Roque, Eve Roger, Jean-Philippe Ballas, Alain Siron, Axel de Tarlé qui a pris une belle veste et Olivier Pouls.